ça, je l'ai bien senti. Après, je sais que des fois, je faisais des vrais arrêts et des fois, je faisais des semi-arrêts. C'est-à-dire, je m'arrêtais, mais je m'arrêtais pas en vrai. Je triche un peu.
Ouais, mais non, mais c'est cool, parce que vos passages étaient très bons et c'est exactement ça. En fait, concrètement, c'est ça, c'est qu'il y a des moments où vous m'avez fait des vrais arrêts, des fois vous m'avez sacrément mytho, voilà. Et puis je vois ce que tu veux dire, encore une fois, quand là, vu que l'exercice c'est de s'arrêter, forcez-vous à vous arrêter. C'est vraiment, arrêtez-vous. Il faut que votre corps là, ça bouge plus. Je veux pas, genre, ça fasse, mais pas ça bouge plus. Un, deux. Ouais, on est d'accord. Ok.
Alors, on est vendredi, il est 21h48, il fait pas trop froid et je suis juste à côté du musée Confluence à Lyon. C'est un peu l'endroit où se retrouvent les danseurs. Ils sont plusieurs ce soir, certains sont seuls, d'autres en groupe avec leurs enceintes. Ici, ils viennent s'entraîner tranquillement, il y a peu de passages et l'architecture du bâtiment fait qu'ils sont abrités en cas de pluie. Et c'est assez grand pour que toutes les ambiances sonores cohabitent. Je suis venue rencontrer Doria, Nancy et d'autres jeunes danseurs en plein entraînement de crump.
C'est normal que c'est la première chose qui vienne, ok? N'oubliez pas, l'attitude, c'est un ensemble de plein de choses. C'est un ensemble de postures, de démarches, de regards, il y a tout dedans. Donc ça veut dire que c'est pas seulement, ok, je suis dans une attitude comme ça. Non, là j'étais en train de danser, boum, là je suis dans une attitude. Là où t'es comme ça, si tu commences à sourire, là je suis dans une attitude, ok? C'est juste... jouer avec votre attitude, mais pas l'attitude de zone de confort.
Ok,
let's go.
Moi, je suis super pensée.
Je suis Marion Coutel. Vous écoutez Non, ma fille, vous n'irez pas danser, un podcast de la Maison de la Danse de Lyon, épisode 3. J'ai eu envie d'échanger avec deux femmes, Doria et Nash, et d'entendre leur rencontre avec la danse. Toutes les deux pratiquent le crump, entre autres, une danse née dans la rue qu'elles ont découvert à Lyon. Par définition, les danses urbaines, les danses de rue, s'apprennent et se pratiquent dehors. On observe d'abord, puis on échange, on essaye, on s'entraîne pendant des heures, on rencontre de nouvelles personnes, on découvre des communautés, dans un espace, celui de la rue, où les femmes ont plutôt tendance à s'effacer. J'ai eu envie de savoir comment Doria et Nash y ont trouvé leur place.
Donc, je suis née à Lyon, d'une famille de 5 personnes, avec 2 grands frères. J'ai vécu toute ma vie à Lyon, donc produit 100% lyonnais, mais qui a bougé un peu dans différents arrondissements de Lyon. Chez nous, il y avait déjà beaucoup de danse de base, parce que on a de la danse traditionnelle chez nous. Je suis d'origine algérienne. Moi, je fais de la danse kabyle. Et cette danse-là, la danse kabyle, c'est une danse qui se danse avec le bassin. Donc du coup, on met des foulards sur les fesses et on danse, et donc tout le monde danse, et souvent, c'est souvent les femmes qui dansent, et les hommes aussi, ils dansent, pas la même danse, ils bougent pas vraiment le bassin, eux, on va les voir plus tourner autour de nous, mais souvent, c'est eux qui prennent les instruments de musique. Donc du coup, chez moi, mon père faisait beaucoup de musique avec de la guitare, une derbouka. Alors une derbouka, c'est un type de tambour, de djembé, de tam-tam. Je sais pas, je vais dire ces termes pour que ça soit un peu plus compris. Et donc souvent, il prenait comme ça son instrument et ma mère, elle chantait les musiques traditionnelles et moi, je dansais, j'essayais d'apprendre parce que les danses traditionnelles, elles s'apprennent pas en fait. Enfin, elles s'apprennent en regardant les autres danser. Donc personne s'assoit à côté de toi et te dit fais comme ci, fais comme ça, non, mets ta jambe comme ça. Non, non, vraiment, c'est que tu observes et tu essayes avec ton corps de reproduire les mêmes mouvements. Et ça, c'est vrai que la danse était très, très présente chez moi. Et donc, du coup, ben, pour moi, c'était naturel. Il y avait la danse. Donc, ben, je dansais à la maison. Je regardais les clips, parce que j'aimais trop ça, la danse. Donc, je regardais beaucoup de clips, clips de hip-hop et tout ça. Et je faisais pas du tout de danse étant petite. Au contraire, je faisais plein d'autres sports. Je voulais faire de la gym, j'ai fait du basket. Enfin, il fallait que je bouge, en tout cas, parce que j'arrivais pas à rester sur place. J'étais une enfant un peu hyperactive, comme beaucoup d'enfants, je pense. Et donc voilà, moi j'ai fait beaucoup de sport jusqu'à ce que ben en fait au fur et à mesure j'arrêtais pas de demander à ma mère, moi je veux faire de la danse hip-hop, je veux faire de la danse hip-hop, et en fait à chaque fois elle me disait non non parce qu'elle avait dit non à mes frères, et du coup c'était non pour moi. Si elle dit non à mes frères, c'est non pour moi, parce que pour le coup ma mère elle nous élève les trois pareils de la même façon. Et à l'époque, donc les années, on va dire fin 90, 2000, le hip-hop c'était super mal vu. Donc parce qu'on disait le hip-hop, c'est ils sont dans la rue, ils dansent, donc il y avait plein de garçons. Et puis on disait non, on pensait ça, il y avait cette connotation que c'était lié à des voyous qui dansaient dans la rue, alors que nous on savait très bien que c'était pas du tout ça. Mais tu peux pas expliquer ça à tes parents, tes parents sont pas dedans, donc. Et j'insistais jusqu'à ce que vraiment à côté de la maison il y a un cours de hip-hop qui a ouvert. Et là je lui ai dit bon, c'est à 5 minutes de la maison, c'est dans une école, est-ce que je peux y aller, on teste, et si ça te plaît pas ben c'est bon, j'arrête. Bon, je savais très bien que j'allais pas arrêter, mais c'était la bonne occasion d'introduire ça. Je me rendais à pied à la salle de danse qui était à côté de chez moi. Et au début, bah, je me rends compte que la professeure de danse qu'il y avait, bah, c'était pas du tout une prof de hip-hop. C'était un mélange de moderne jazz, street jazz, et sur de la musique commerciale. Enfin, à l'époque, on disait musique commerciale pour faire comprendre qu'on dansait sur du Chris Brown, du Usher. Et je me disais, ah, mais je crois que c'est pas du tout ce que je suis venue chercher. Et comme par hasard, le destin un peu, ben, la professeure change. Et cette année-là, je rencontre la personne qui deviendra ma chorégraphe après, qui s'appelle Maïssa Barouche. Et elle nous a apporté le hip-hop. Donc, les premiers styles de hip-hop que j'ai connus, c'était les styles... Donc, il y avait le hip-hop et il y avait les styles funky, qu'on appelle. Donc, le popping, le locking. Elle faisait aussi de la house. Donc, du coup, on a commencé à découvrir encore plus toute la culture hip-hop avec un grand H. J'étais aux anges. Je me suis dit, mais voilà, en fait, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce qu'il me faut et c'est ce que je veux. Donc après, j'ai commencé à danser absolument tous les jours. Donc je m'entraînais tout le temps chez moi. Dès que j'avais un moment, je me mettais dans ma chambre, je m'entraînais, je regardais encore des vidéos, parce qu'avant de prendre les cours, on regardait des vidéos, on faisait les mêmes pas que Michael Jackson, les mêmes pas que Usher. Mais là, j'avais de la matière. J'avais des mouvements, j'avais des bases. Donc je m'entraînais et puis j'allais aux cours et puis j'allais aux entraînements. Et ensuite, elle nous a dit, ben, moi, je quitte cette salle de danse, je m'en vais dans une autre salle. Si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, venez. Mais par contre, ça sera un créneau d'entraînement. Et nous, on s'est dit, mais super, parce que c'est bon, les cours, on en veut plus. On veut plus que seulement des cours. Donc, ben, on l'a suivie. En fait, n'importe où elle allait, on la suivait. Quand je dis on, c'était les personnes avec qui je dansais qui ensuite ont constitué mon premier crew de danse. Et donc, on la suivait et on allait s'entraîner. On allait s'entraîner et puis on s'est dit, mais il faut aussi qu'on s'entraîne un peu plus que dans la salle. Donc, on est sorti et on a cherché forcément le spot à Lyon qui était l'Opéra. Et là, l'Opéra, c'était vraiment la fontaine, la fontaine des danseurs, une fontaine vraiment riche en tout, parce qu'il y avait tous les styles, il y avait les breakers, il y avait les danseurs debout, donc danseurs debout qui mêlent hip-hop, popping, tout en fait. Donc, on s'entraînait tout le temps là-bas. Et du coup, moi, je ne disais pas que j'allais m'entraîner là-bas, parce que... Pour rappel, à la base, c'était mal vu de danser dehors. Donc, du coup, je disais pas que j'allais danser dehors. Je disais que j'allais en ville avec mes potes. Et alors, en fait, que j'allais m'entraîner. Là, à l'époque, je suis passée de collège. Quand j'ai commencé les cours, j'avais 13-14 ans. Donc, j'étais au collège. Et quand j'ai changé d'école et que je suis allée à l'opéra, là, j'étais au lycée. Et moi, mon lycée se trouvait en plein centre-ville, donc à côté de l'opéra. Donc, dès que je finissais le lycée, mes cours... Moi, j'avais déjà un t-shirt de rechange dans mon sac. J'allais directement à l'opéra et on se retrouvait, on s'entraînait. C'était vital. En fait, c'est t'avais envie de progresser, d'apprendre plus et de d'aller encore plus loin dans ta pratique, dans ton apprentissage. Et je pense qu'au début, t'arrives pas vraiment à mettre de mots dessus. C'est bien plus tard que en fait, tu te rends compte que tu t'apprends toi-même et que t'apprends ton corps. Au début, tu le sais pas, tu veux juste progresser. Et plus tard, tu te dis, mais en fait, j'étais en train de m'apprendre, en fait. J'étais en train de m'apprendre moi-même. J'apprenais mon corps. Qu'est-ce que je fais avec mon corps? Où est-ce que je peux aller? Et ça, c'était vraiment une expérience géniale, surtout à cet âge-là. On est jeune, on a envie de faire plein de choses. Et en fait, t'as l'impression que ce qui toujours est constant et qui a du sens tout le temps, bah, c'est ça. C'était la danse. Elle était tout le temps là.
We're gonna sail into the dance world, the art world. We're gonna take it by storm because it's our belief. This is not a trend. Let me repeat, this is not a trend.
Niggas throwing up they sets, acting popular. I'm going mainly face painted like a warrior.
Alors écoute, le Crump, je le rencontre d'abord au cinéma à Paris. Je le rencontre dans le film documentaire Rise de David LaChapelle. Je sais même pas tellement pourquoi je suis allée voir ce film. Je pense qu'à l'époque, j'étais cinéaste à l'endroit de... J'allais tout le temps regarder pas mal de films. Et je suis tombée là-dessus. Et ça a été, comme j'aime le dire dans la conférence dansée, ça a été une sacrée gifle, en fait, très, très concrètement. Parce que du coup, ces corps qui dansaient fort, ben, ils faisaient écho à des corps que j'avais déjà rencontrés à d'autres endroits, comme je te disais... une présence de la danse forte dans ma famille. Et du coup, je vois ça et je me dis, mais ça fait partie de mon histoire, en fait. Ça me parle. Ça fait longtemps que ça ne fait plus partie de mon histoire, mais il y a quelque chose qui me parle. Et donc, je retourne voir le film plusieurs fois et je sens que c'est en train de déplacer quelque chose. Je sens que ça éveille un désir. Les années passent. C'est pas pour autant que je me suis mise à crumper directement, tu vois, après avoir vu le film. Mais la vie, c'est comme ces fameux signes. Des fois, tu vois, quelques années plus tard, je pense que c'est peut-être 3 ou 4 ans plus tard, je vois des crumpers. Et cette fois, c'est à Lyon. Donc, tu vois, entre le laps de temps où j'ai vu le film à Paris et où je me suis installée à Lyon, bah, il y a eu ces fameuses années où je suis allée en Australie et où, dans le cadre de mes études, j'ai atterri à Lyon, à la manufacture des tabacs. Et donc, j'étais serveuse dans un café devant l'Opéra de Lyon et je vois les crumpers. Et voilà, là, c'est le moment où, si tu veux, je me dis, OK... Ça m'avait parlé fort il y a quelques années. Là, ils sont juste là, à quelques mètres. Bon, j'ai gagné en confiance. Depuis, je suis un peu plus sociable. Je vais aller leur parler. Et là, c'est vraiment la rencontre avec les premiers crumpers lyonnais. De sentir aussi leur fougue, leur jeunesse. De les voir danser et de me dire « Waouh, mais ça me dirait vraiment beaucoup qu'ils puissent me donner quelques-unes des bases de cette danse. » Et en fait, j'aimerais bien pouvoir traîner avec eux. J'utilise le mot « traîner » parce qu'il y a vraiment ça aussi. Hein. Je me suis jamais dit à mes 22 ans, en commençant le crump, que j'allais devenir une danseuse. À aucun moment. Une danseuse professionnelle, encore moins. Mais l'attrait que ça a eu pour moi à ce moment-là, c'était aussi l'insouciance de la vie lyonnaise. Tu vois, j'étais étudiante en faculté, j'avais une bourse, j'avais un job... J'étais loin de ma famille qui était toujours en banlieue parisienne. J'avais un appartement super à la Croix-Rousse avec ma meilleure amie. C'était des années vraiment, tu sais, de vie de femme qui éclore en fait. Je sortais, j'allais voir des concerts, je faisais des festivals. Il y avait toujours des soirées aux Transborders. Enfin, Lyon, ça a été quand même pour moi une sorte de grande lumière. Et je pense que ça aussi a fait qu'à un moment, je me suis dit, bon, les gars, parce que c'était des hommes, c'est du crump, n'est-ce pas? Oui, c'est du crump, ok. Eh ben, je peux vous regarder? Oui, vas-y, regarde. Et plus tard, je peux essayer? Bon, ben, regarde, c'est comme ça que ça marche. Et aussi, une sorte de surprise de la transmission éclair il y a 3 bases. C'est le stomp, ton ancrage dans le sol. Regarde, c'est comme ça, ok. C'est le chest pop. Qui t'aide à te déployer, c'est ton moteur, c'est la poitrine, tu respires, d'accord. Et la dernière, c'est qu'est-ce que tu vas nous dire avec tes mains, avec tes bras, et comment tu projettes là ce nouveau langage. Et à partir de là, on m'a dit, maintenant il faut travailler, et c'est tout. Et ça aussi, je pense que ça m'a intriguée, je me suis dit, donc ça n'est que ça, et en même temps, c'est tout ça, et c'est comme ça que je rentre vraiment dans le crump, et Je pense que la première expérience pour moi de rentrer dans un cercle lors d'une session crump avec pas beaucoup d'éléments, le fait que j'y sois allée était assez mystérieux. Quelle force m'a poussée la première fois à mettre le pied dans le cercle et à assumer que j'allais prendre parole alors que j'avais très peu de code. Ça m'a vraiment toujours interrogée. Qu'est-ce qui a vraiment fait qu'à cette époque-là, j'ai osé? Et après, là, la sensation, quand tu sors, après cette première prise de parole, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as très peu de conscience de qu'est-ce que tu viens de poser là, mais tu sais juste que les gens t'ont supporté, tu sais juste que les gens ont crié, que c'était ton moment. Et à partir de là, j'ai réalisé que c'était une nécessité. Et j'ai commencé et j'ai pu arrêter. Donc, il y a une femme que je vois danser sur le parvis de Lyon et elle s'appelle Shiny. C'était son nom de crumpeuse. C'est une femme que j'ai perdue de vue. Enfin, on ne s'est jamais vraiment connue d'ailleurs. Mais quand même, c'est important parce que c'était la seule à l'époque. Et je me rappelle, elle avait des longues dreads, des dreadlocks. Et elle avait une puissance et une personnalité qui étaient assez impressionnantes. Et je me rappelle bien la première fois où je l'ai vue. Je me suis dit en même temps, waouh, elle est impressionnante, elle est monstrueuse. J'oserais même pas aller la voir pour lui parler tellement que son aura était puissante. Et en même temps, j'ai été tout de suite complexée en me disant, oh là là, mais c'est quoi cette femme? Mais toi, t'es à 10 000 lieues de pouvoir faire un truc comme ça. Donc vraiment une sorte de fascination. Et en même temps, un feu à l'intérieur où je me suis dit, mais alors franchement, si elle fait ça, chiche. Tu vas arriver à faire ça un jour. Donc ça a été quand même, dans un milieu d'hommes, la révélation de voir une femme, la seule et unique danser, où je me suis dit, j'y serai aussi. Je veux faire partie de ça. Je veux être comme elle, en fait. J'avais vu des femmes dans le documentaire de Rise, qui est resté un documentaire. Mais là, de la voir, là, à 3 mètres de moi, déployée, s'arracher, faire crier tous les hommes qui étaient autour d'elle, je me suis dit, mais quelle puissance, quelle chance elle a en fait. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais me mettre au boulot. Et en même temps, tout de suite, elle devenait une adversaire potentielle dans ce milieu d'hommes, pour plein de raisons, une adversaire parce qu'elle avait ce monopole d'être la seule. Après, les années suivantes à Lyon, j'ai découvert qu'il y en avait quelques-unes, mais vraiment, c'était elle, Shiny, la première. Il y avait l'idée de m'imposer, mais il y avait aussi l'idée d'être copine, d'être, tu vois, c'est quelques rares femmes qui vont faire partie d'une meute de mecs, en fait. Je pense que ça a été important pour moi d'avoir la possibilité de me fondre et d'être amie et d'être complice et d'être sœur à l'intérieur d'un groupe, dans la rue, des hommes, alors à l'époque aussi à Lyon, noirs. Que des noirs, que des gens avec des histoires bien spécifiques, de sans être dans les clichés, mais c'est la réalité de aussi de banlieue, de cité, voilà, des gens qui vont s'habiller d'une certaine manière, et ça me disait bien moi aussi de peut-être même pour la première fois d'être reconnue dans un groupe comme celui-ci, ça avait cet enjeu-là, ça avait cet attrait-là, d'être l'opposé de cette adolescente vilain petit canard et pas du tout populaire à l'école. Là, il y avait l'opportunité de devenir populaire, d'avoir l'aval de tes pairs, quoi, d'être validé en quelque sorte. Donc je t'avoue que je pense qu'aujourd'hui, avec les dizaines d'années de recul, je crois que c'était surtout ça pour moi. C'était de plaire, de sentir que j'étais dans un groupe, plus que de me dire je me bats avec les hommes en fait. C'était ça l'enjeu et en fait très rapidement c'est ce qui se passe en fait. C'est que tu deviens... la membre d'un groupe et en fait tu commences à être apprécié et en fait tu tous les jours après le travail ou après les cours tu retrouves ces gens là t'as rien à prouver, c'est naturel, Nash elle arrive, on se pose pas de questions de qui c'est en fait, j'ai ma place et ça a duré des années et c'était confortable c'était les moments où j'ai peut-être le plus mis un mot sur ce qui était de la fraternité, donc tu vois, d'accepter les gens comme ils sont, même si des fois t'as des traits de personnalité de certaines personnes qui vont te déplaire, mais on est là pour danser, du coup on fait avec et on échange et tu commences à connaître les gens de plus en plus et tu réalises que la danse, ben ça fait que le groupe est bienveillant, qu'on te donne des conseils, que toi tu peux peut-être en donner. Et le corps évolue et tu comprends des choses et les gens t'aident à t'améliorer Et il y a les premiers battles, les affrontements, et tu vois que les gens sont derrière toi, te dire « vas-y, t'inquiète, ça va aller ». Et là, tu dis « mais c'est ça, en fait, être un groupe, c'est ça, s'entraider, en fait ». Et t'as toujours le moment où les oreilles s'ouvrent bien grand pour entendre ce que tu vas dire. Et j'ai jamais trouvé ailleurs une écoute aussi belle.
La communauté Crump à Lyon, à l'époque, c'était la Fame Smash. Donc Fame, dans le jargon Crump, c'est une famille. Alors nous, on dit Fame, les Français, normalement on dit femme en anglais, parce que femme, family, ça vient de là. Mais nous, on dit Fame parce que ben, dans la sonorité française, dire femme, tout de suite, tout le monde va penser à femme, la femme. Du coup, Fame, c'est une famille. Et dans le Crump, ça fait partie de la culture Crump. Les familles, en fait, bah, c'est un mentor qui vient et qui transmet à ses petits, qu'on appelle les Lil Homies, et qui leur apprend, qui leur transmet du coup le Crump, la danse, comment les bases, tout ce qui est autour du Crump, pas seulement la danse, mais aussi la culture. Et chacun a un grade dans cette Fame. Et ce grade-là, c'est ton nom dans cette fame-là. Donc, par exemple, la première fame qu'il y avait à Lyon, c'était les Smash. Donc, du coup, dans cette fame-là, le Big, son nom, c'est Smash, parce que c'est son nom, c'est son personnage. Parce qu'en Crump, souvent, on parle de donc caractère en anglais, et c'est du coup son personnage. Et il a son nom, et quand il entraîne ses petits, il donne un grade en lien avec son nom. Donc, on va avoir Junior Smash, Lady Smash, Prince Smash, Young Smash, Girl Smash, voilà. Et en fait, c'est vraiment une famille. C'est comme si le ou la Big, c'était le papa ou la maman. Honnêtement, c'est le grand frère ou la grande sœur, mais voilà, c'est comme si c'était les parents et qui apprennent, et toi, tu as ce nom-là. Et après, tu fais tes armes avec ce nom-là dans le monde du Crump. Et tu évolues aussi avec ce nom-là. Et tu évolues aussi dans ta fame. Ça veut dire que tu peux rentrer dans ta fame en tant que, je vais dire, Baby Smash. C'est un petit grade, un grade en bas. Et tu vas tellement faire tes armes et tellement évoluer que du coup, tu vas passer Prince Smash. Voilà. Et donc, les grades sont... rangés par niveau, mais aussi par personnalité. Et là encore, je préfère dire que chaque big a sa façon de faire. Il y a la base, évidemment, mais chaque big fait sa fame comme il a envie. Donc certains vont s'arrêter que sur le niveau, d'autres, ça va être énormément plus la personnalité, ou peut-être ça va être un mélange des deux, peut-être... Enfin, voilà. Mais du coup, la base du grade, c'est que c'est un niveau. Et donc, dans les grades, il y a soit des grades mixtes, que tu peux donner aussi bien à des garçons qu'à des filles, soit y a les deux versions. Donc, t'as boy, t'as girl, t'as prince, t'as princesse. Et donc, les bigs, il n'y a qu'un seul big par fame, normalement, donc soit une femme, soit un homme, donnent ces grades-là. Et donc, la Fame Smash, c'était la première à Lyon. Concrètement, c'est les pionniers, c'est ceux qui ont amené le Crump à Lyon. Et dans cette fame-là, il y avait notamment Marvelous, Gaël Saint-Aimé, qui est du coup notre pionnier du Crump ici à Lyon. Et donc, c'est lui et son frère qui avaient créé cette fame. Et il a repris du coup après derrière toute la fame quand son frère a arrêté la danse. Et il y avait beaucoup de personnes à l'intérieur, notamment aussi... No Time, David, qui danse ici aussi à Lyon. Et je sais qu'à une période aussi, Nash était passé par là. Je crois qu'on a dû vraiment se croiser à l'opéra. Et parce qu'elle était à Lyon à ce moment-là. Donc il faut compter 2010, 2011, enfin ces périodes-là. Et dans cette fame-là, il y avait une femme, donc qui était Lady Smash. Sonia, de son vrai prénom. C'était vraiment pour nous, moi, c'était vraiment mon idole. Quand je la voyais danser, je me disais, oh là là, mais en Crump, je veux danser comme elle. Parce qu'en plus, c'était la seule figure féminine qu'on avait en Crump à Lyon. La seule avec qui tu peux te projeter, en fait. Parce que c'est vrai que quand tu arrives dans ce milieu, il y a que des hommes, il y a plein d'hommes. Il y a pas que des hommes, mais il y a plein d'hommes. Et plein d'hommes super musclés. Et en plus, comme c'est une danse qui est puissante, puissantes et qu'ils envoient, ben, très souvent, tu peux te dire « Ouh là là, mais moi, je ne suis pas sûre d'arriver à faire ça. » Parce que ben, tu regardes et tu as des petits bras ou tu dis « Waouh !» Et donc, tu avais Lady Smash qui était là et qui défonçait tout, quoi. Elle avait une puissance incroyable, une présence incroyable. Et on se disait « Mais enfin, nous, on veut devenir comme elle, quoi. » Moi et mon ami, on disait « Mais elle est incroyable. » Et donc, on s'est entraîné avec cette fame. Et dans cette fame-là, il y en a deux, du coup, qui nous ont parlé, chacune de notre côté, à moi et mon ami, en disant « Bah, écoute, si ça t'intéresse le crump et si t'aimes ça, moi, je suis partant pour te former. » Et donc, moi, c'était Marvelous, à l'époque, donc année 2010, hein, qui m'avait, du coup, on s'était écrit à l'époque, je voulais d'avoir Facebook, on s'était échangé nos Facebook, et donc il me dit, ben moi je suis chaud pour te former. Et j'étais mais trop contente, parce que je me suis dit, waouh, mais je vais être formée par un des crumpers de Lyon, de cette fame, enfin, on vient de les rencontrer, on a dansé devant eux et tout, on s'est dit, mais, parce que nous, on pensait encore qu'on allait devoir beaucoup, beaucoup s'entraîner tout seul et tout ça. Et là, c'est une chance, quoi. Enfin, là, on se rend pas compte, mais c'est une chance que quelqu'un vienne et te dise, bah, moi, je vais te donner de mon temps pour te former et on va voir ce que ça donne ensemble. Est-ce que t'es partante pour l'aventure? Et donc, eh ben, on se retrouvait tout le temps à l'opéra pour s'entraîner avec eux. Et du coup, je me souviens très bien. Alors, cette anecdote, elle restera marquée parce que quand on entre dans une fame, on passe par ce qu'on appelle une cage. Une cage, c'est un peu un rite de passage. En fait, ben, toutes les personnes présentes dans la fame que tu vas intégrer te battle. En fait, tu vas danser contre eux. Et donc, toutes les personnes présentes et autres personnes liées plus y affinité à ton big. et donc, en plus, à l'époque, dans la fame Marvelous, je pense qu'ils étaient 5 ou 6, mais 5 ou 6 des monstres, quoi. C'était vraiment des monstres. Et tu te disais, waouh, mais si eux, je les battle, mais je vais mourir, quoi, sur place. Et donc, voilà, cette cage-là, qu'est-ce que c'est une cage? Pour vraiment, vraiment expliquer ce passage-là, c'est un passage super important et qui pour moi, c'est un super souvenir. Et franchement, si je pouvais refaire souvent des cages, je le ferais. Mais une cage, c'est... Donc, toutes les personnes te battle, sauf qu'en fait, ben c'est toi qui ouvres ta cage. Donc, tu fais un premier passage. Et ensuite, il y a une personne qui vient de la fame et c'est la personne la moins gradée. Donc la moins gradée, entre guillemets la moins forte, c'est pas du tout qu'elle est pas forte, mais on va dire en termes de niveau, celle qui a le niveau le plus bas dans la fame. Donc elle commence et elle te donne un passage et tu dois répondre à hauteur de ce passage-là. Et ensuite, si elle veut, elle te redonne un autre passage, tu réponds à hauteur encore de ce passage-là. Puis après, bah, y a la deuxième personne qui vient et elle te donne un passage et tu lui donnes un passage. Elle te donne un passage, tu lui donnes un passage. Et en fait, bah, dans ta cage, plus t'avances dans ta cage... Plus le niveau augmente en termes de danseur qui concrètement est en train de te frapper, plus toi tu fais des passages, mais eux sont pas fatigués. Bah eux c'est le premier passage qu'ils te donnent, donc ils sont mais gonflés à bloc, alors que toi tu viens de faire 4-5 passages. Et en fait c'est vraiment un moment où tout s'ouvre en fait. Tout s'ouvre à l'intérieur de toi, corporellement, émotionnellement, mentalement, tout s'ouvre. Parce que ben, tu dois dépasser toutes tes limites. Et quand je dis toutes tes limites, c'est vraiment là tout ce que je viens de citer. Tes limites corporelles, psychologiques, émotionnelles, il faut que tu ailles au-dessus de tout ça. Parce qu'il faut que tu tiennes tous ces rounds. Il faut que tu les tiennes. Et plus t'avances, plus c'est difficile, en fait. C'est comme un jeu vidéo, quand tu te tapes avec les gens, les jeux vidéo de bagarre, ou même les jeux vidéo avec des quêtes, ou etc. Plus t'avances, plus c'est difficile, en fait. Jusqu'à arriver au boss final, et le boss final, c'est le big. Et lui, bah, il peut te donner autant de rounds qu'il veut. Et donc, tu dois bah, tenir. Tenir, parce que chaque fois que quelqu'un te donne un round, tu dois répondre à la hauteur. Tu dois pas être fatigué. T'es fatigué, c'est sûr, mais tu dois répondre à la hauteur. Et en fait, c'est comme si on te disait, ben, tu veux rentrer dans cette fame, prouve-nous que tu veux rentrer dans cette fame. Et pour rentrer dans cette fame, il faut que tu puisses tout donner, mais tout donner. Il faut que tu montres que t'en veux, que t'es acharné, t'as de la détermination, en fait, à rentrer dans cette fame. Et en plus de ça, une cage, ben, quand toi, tu danses, personne ne hype. Je fais une petite parenthèse. La hype dans le crump, c'est ce dont je parlais quand il y a des sessions, des cercles, c'est quand tout le monde crie. Il n'y a pas vraiment de traduction française à ça. Je pourrais dire peut-être c'est encourager. Mais en fait, c'est plus le danseur te donne quelque chose, toi tu lui rends. Et comme tu lui rends, il te rend encore et tu lui rends encore. C'est pour ça que ça escalade dans les sessions et dans les passages des danseurs. C'est, ben, il est en train de donner de lui-même. Ben, toi, tu vas donner aussi de toi-même parce qu'il vient de te donner quelque chose. Et donc, ça crie. Et c'est ça, la hype. Et dans ta cage, eh ben, quand toi, tu danses, on te hype pas. C'est vraiment... s'il y a des gens qui regardent la cage, imaginons qu'il n'y a pas que ta fame, mais il y a d'autres personnes qui sont là. Personne n'a le droit de hyper.
Je peux valider le fait que tu es habité par autre chose et très probablement par une guerrière, par une sorcière, par une vieille âme, une vieille femme, par une prostituée, peut-être même que tu es habité par un homme, par un félin, un animal, il y a beaucoup de choses. Ça, si je pouvais te donner moi mes sensations à moi, c'est que j'ai jamais vraiment visualisé un personnage et essayé de prendre ses traits. Tu vois, je commence pas par me dire ok, là, je vais rentrer et je vais incarner un tel ou une telle. En général, j'arrive, j'essaye en quelques secondes de faire le vide et assez rapidement, il y a quelque chose qui va venir. Il y a une courbe de dos, il y a une crispation des mains, il y a une ligne, le corps va commencer à se placer et en général, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Par contre, assez rapidement, je sens qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que le corps il a envie de faire, est-ce qu'il veut aller vers le bas avec une attitude animale et là une fois que c'est là il est accepté et là je le déploie et là c'est plus Nash et là ça va être vraiment tu vois soit ce félin soit ça va être cette déesse ou cette reine qui va être très haute dont les mains vont aller très haut dont le port de cou va être très droit dont le regard va être vraiment loin sur l'horizon, ça y est elle est là, c'est pas moi qui ai décidé de la faire venir, par contre j'ai appris maintenant qu'elle est là, elle a laissé se déployer et c'est là où tu vas aller utiliser tes bases, tout ce que tu auras emmagasiné en travail chorégraphique en amont pour lui dire ok, là maintenant tu as la palette de mouvements dans le corps, raconte l'histoire que tu as envie de raconter. Et là effectivement c'est plus moi, là ça va être une guerrière qui va des fois tu vois, visualiser des outils autour d'elle ou qui va visualiser un horizon. C'est très sensoriel comme pratique, ou en tout cas moi, comment je le pratique. Et ça, c'est ce qui a fait que pour moi, le crump est devenu encore plus précieux avec les années, avec les recherches. C'est que je me suis dit, mais attends, c'est pas seulement un rituel de cercle, de faire des sessions ou des battles dans l'espace urbain. C'est qu'en fait, c'est un outil incroyable pour une femme qui est en recherche tout court, en fait. De comment tu vis ta vie, de comme le dit Audre Lorde, cette écrivaine, comment nous les femmes on s'empare de nos érotismes au sens de vivre nos vies de manière érotique, c'est-à-dire l'engagement que tu mets, vivre ton corps de manière érotique, vivre tes relations professionnelles ou familiales de manière érotique, c'est-à-dire être authentique et faire là de l'instant présent quelque chose de plein. Et finalement, le crump m'a appris ça, c'est que c'est pas demain ou c'était pas hier, c'est maintenant. Et c'est cette possibilité d'aller-retour entre toi, qui tu ne seras jamais, qui tu aimerais être, c'est quoi ton éthique, c'est quoi accepter le lait, c'est quoi accepter ta fragilité, c'est quoi accepter ta puissance, parce que je crois que c'est ça qui est le plus dur à accepter, c'est que tu peux, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu peux, ben en fait, tu sais que tu peux y aller et tu peux plus avoir de prétexte. Et c'est le moment où il faut pas avoir peur du succès et d'y aller, quoi.
Le mot érotisme vient du mot grec eros, personnification de l'amour sous tous ses aspects, né du chaos, incarnation de la puissance créatrice et de l'harmonie. Alors, quand je parle d'érotisme, je parle de l'affirmation de la force vitale des femmes, de cette puissante énergie créatrice dont nous réclamons aujourd'hui la connaissance et l'usage dans notre langage, notre histoire, nos danses, nos amours, notre travail, nos existences. Une autre fonction importante du lien érotique, c'est de souligner ouvertement et sans crainte ma capacité à éprouver de la joie. Tout comme mon corps se tend au son de la musique et lui répond en s'ouvrant, attentif à ses rythmes les plus profonds, chaque niveau de sensation m'ouvre la porte d'une expérience érotique épanouissante, qu'il s'agisse de danser, de construire une bibliothèque, d'écrire un poème ou d'étudier une idée.
il était pour moi très difficile d'envisager une séparation des genres à l'intérieur du crump, parce que c'est en train de se faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sessions qui sont seulement pour les femmes, qui sont interdites à la gente masculine, parce que certaines, et je pense que c'est très cohérent sûrement, et c'est possible, hein, certaines se disent qu'elles sont plus à l'aise quand elles sont que entre filles. Plus à l'aise parce qu'elles ont moins à se battre, justement, pour rentrer dans le cercle et pour faire un passage de danse. Parce que quand on est très nombreux et qu'on a un temps imparti dans une salle, ben en fait, tout le monde ne peut pas danser parce qu'il n'y a pas le temps. Et du coup, il y a des filles qui m'ont dit, bah, tu vois, Nash, nous, là, quand on n'est qu'entre filles, il y en a certaines qui osent danser plus fort, il y en a certaines qui osent danser différemment, et surtout, on a de l'espace. On a de l'espace. Et moi, je disais au début... Mais pourquoi ? Pourquoi ne pas retrouver ce même espace-là, mais même quand il y a les hommes, en fait ? Et elle me disait non. En fait, non. On n'a pas envie de se battre autant. On veut juste pouvoir librement avoir cet espace-là. Et au début, je savais pas trop quoi penser de ça. Je me disais, mais non, c'est tellement dommage. On va pas commencer, nous aussi, à interdire à un tel ou à un tel, pour un critère quelconque, l'accès au cercle. Tu vas pas commencer à interdire à un homme d'être là. Moi, je le voyais comme ça. Tu vois, pour moi, c'était aussi grossier que de dire « tu vas interdire à un Asiatique de venir danser le crump parce qu'il est Asiatique ». Donc à un moment, je me disais « mais vous réalisez ce que ça peut représenter d'interdire à un homme de venir ?» Et après, bah, quand tu prends le recul et quand tu réfléchis, tu te dis « pourquoi pas ?» Il y a plein de sociétés patriarcales où la présence de la femme, elle n'est pas autorisée, tu vois. Pourquoi pas ? T'as aussi des espaces où il y a des femmes qui ont nécessairement besoin d'être entre femmes après un trauma, après un rapport compliqué à, tu vois, la relation à l'homme. T'as des espaces aujourd'hui où c'est très important et où je reconnais l'importance d'être que entre femmes. Mais ça n'est pas encore, ou ça n'a pas été, moi, mon histoire. Du coup, j'ai eu un peu peur quand j'ai commencé. Ça date pas d'aujourd'hui, 2022. Hein, quand j'ai commencé à voir les filles se décaler pendant des événements crump pour faire un cercle tout petit où il n'y avait que les filles et où juste à côté, tu avais une centaine de mecs qui étaient en train de danser. Ça s'était passé une fois au skatepark de Bercy lors d'un événement qui s'appelle Heavyweight Session. J'ai vu, j'étais un peu en hauteur et à un moment, les filles, elles en ont eu marre et j'ai vu comme ça une dizaine de filles qui se sont séparées du groupe et qui derrière... tout en profitant de la sono qui était en train de tourner, qui ont fait un cercle et qui ont commencé à faire des passages que entre filles, en même temps que les garçons. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, non, il y a un truc qui ne va pas. Mais aujourd'hui, je me suis un peu déplacée sur ça et je me suis dit que s'il y avait nécessité de le faire et si c'était en train de se faire, c'est qu'il y avait une nécessité qui n'était peut-être pas la mienne aujourd'hui, mais qui l'est aujourd'hui pour certaines femmes.
J'étais membre d'un gang. Et ma vie se passait comme elle devait se passer. Et puis, il y a eu cette nuit. On allait faire un truc avec ma bande. On allait dévaliser un magasin de téléphone portable. Et puis, j'ai eu Slayer au bout du fil. Je lui ai demandé quoi faire. Il m'a dit, on est en train de s'entraîner. C'est plus fort que des dessins animés. Et moi, j'ai dit, oh. Alors, il m'a fait, ramène-toi. Et je me suis dit, ouais, il faut que je change de vie.
On n'était pas nombreuses en termes de filles, mais ça encore, ben, c'est comme beaucoup de danses. Il y a beaucoup de garçons et très peu de filles. Mais parce qu'aussi, dans les danses de rue, parce que qui sont nées dans la rue, ben, il y a beaucoup plus de garçons dehors que de filles. Donc encore plus quand tu viens dans un pays, faut pas oublier que c'est né aux États-Unis, si tu reprends l'histoire même du hip-hop, du crump, prenons l'histoire du crump, c'est né, ça découle du clowning. Et le clowning, c'est né suite aux émeutes qu'il y avait eu en réponse aux violences policières qu'il y avait sur la communauté noire. Donc en fait, c'était un cadre vraiment très particulier. Et donc le clowning est né parce qu'on voulait détourner les jeunes de tout ça, de tout ce qui se passait, de ce racisme, de cette violence envers la communauté noire. Et donc du coup, le clowning, c'était des gens qui se maquillaient, qui se déguisaient en clown et qui faisaient sortir les enfants pendant les fêtes d'anniversaire. Ils les faisaient danser. Et le crump découle de ça, en fait. C'est les jeunes qui faisaient du clowning qui ont créé le crump. Et ils ont créé le crump pour exprimer encore plus de choses, en fait. Ils avaient tellement de choses à dire que ben ils se sont dit ouais ok c'est cool. Enfin moi c'est l'histoire que j'ai appris du Crump. Que ben on a envie d'exprimer ce qu'on vit tout le temps au quotidien, et ce qu'on vit au quotidien ben c'est plein d'émotions différentes en fait. C'est pas seulement être là et nous dire ça va aller, c'est tout. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, de la nostalgie, de la frustration, de la joie, plein de choses.
Mais du coup, on va marcher comme ça, hein, parce qu'on est pire.
Non ma fille, vous n'irez pas danser est une série en 6 épisodes produite par la Maison de la Danse de Lyon, imaginée et écrite par Marion Coutel et co-réalisée avec Nuit Noire, studio de création sonore immersive.